Tout le jour, mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Le verset 1 nous donne un précieux élément de contexte. Lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Ce moment où les Philistins saisirent David, nous l'avons dans nos Bibles dans 1 Samuel 21. À ce moment-là, David n'est pas encore roi d'Israël. Le roi, c'est Saül. Et Saül est bien décidé à faire la peau de ce petit David, notamment parce que la notoriété de David commence à lui faire de l'ombre. David est donc en fuite pour échapper à son persécuteur. Et la situation est tellement désespérée pour lui qu'il ne trouve pas meilleur endroit pour se réfugier que chez les Philistins. Or, les Philistins sont les ennemis d'Israël. David a combattu contre eux. Il a notamment tué Goliath, leur plus vaillant guerrier. Il s'est taillé une réputation si solide parmi eux que lorsqu'ils le voient, les Philistins pensent que c'est lui le roi d'Israël. Ils savent qu'il est celui dont il est dit qu'il a tué des dizaines de milliers. Autrement dit, pour échapper à Saül, David est prêt à se jeter dans la gueule d'un autre loup. Pour qu'il prenne une telle décision, il faut vraiment que la persécution dont il est victime ait été sérieuse. Mais pour se sortir de cette mauvaise passe, il va mobiliser ses ressources intérieures, dont le psaume 56 que nous avons lu fait écho. La suite de l'histoire nous montre que David, pour s'en sortir, va devoir aller se cacher dans une grotte. C'est sans doute à cela que nous poussent les situations de harcèlement à aller se cacher dans une grotte. Si la grotte n'est pas physique, elle est souvent psychologique. Dans le harcèlement, nous sommes privés de liberté par ceux qui nous oppressent. Alors le harcèlement, malheureusement, n'est pas nouveau. La Bible elle-même ne manque pas d'exemples. Celui exercé par la femme de Potiphar envers Joseph, lui demandant des faveurs sexuelles. Joseph, ne cédant pas, il fut accusé par elle d'avoir tenté de la violer et il fut mis en prison pendant des années avant que le Seigneur ne le relève. Il y a celui de l'accusateur des frères dans Apocalypse 12, donc Satan, qui les accusait jour et nuit. L'Église, dans son histoire, a été harcelée inlassablement. Les protestants par les catholiques. On connaît les dragonnades, l'inquisition, les conversions forcées. Mais il y a aujourd'hui encore, dans les pays musulmans, hindous ou bouddhistes, des chrétiens qui sont harcelés. Il y a aussi le cyberharcèlement des chrétiens au Myanmar ou en Chine. Ils sont épiés, voire par les réseaux sociaux. au point qu'ils ne peuvent plus communiquer entre eux et doivent fuir. Et nous aurons bientôt un dimanche de l'Église persécutée de portes ouvertes. Mais revenons à l'actualité. Depuis 2015, le gouvernement a instauré à chaque rentrée scolaire une journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Et la prochaine aura lieu le 9 novembre. À la rentrée 2022, un clip vidéo fait par des élèves a été tourné pour sensibiliser les établissements scolaires, intitulé « Et si l'autre, c'était toi ?». L'année 2023-2024 a été décrétée par le gouvernement priorité absolue contre le harcèlement scolaire après le suicide de la jeune Lindsay, jeune fille de 13 ans, au printemps dernier, dans le Pas-de-Calais. Le Sénat a déclaré grande cause nationale cette lutte. Le gouvernement a établi le 27 septembre un plan de lutte dans tous les établissements scolaires, dans les secteurs d'activité, tous les secteurs d'activité, avec un numéro spécifique à cet égard. Le 7 septembre, Brigitte Macron s'est rendue au domicile des parents du jeune Nicolas, 15 ans, à Poissy, et qui s'était pendu chez lui 2 jours avant, suite à des problèmes de harcèlement. Les parents avaient signalé les faits dès décembre 2022. Ils avaient protesté contre une insuffisance de prise en charge, de prise en compte de la situation par l'institution. Le rectorat de Versailles avait menacé de porter plainte contre les parents pour dénonciation calomnieuse, ce que Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a déclaré honteux. La liste des cas semblables s'allonge et effraie. Lucas, 13 ans, suicidé le 7 janvier dernier. Marion, 13 ans, en 2013. Ambre, 11 ans, en décembre 2022. Dina, 14 ans, en 2021. Jonathan Destin, immolé par le feu à 16 ans, en 2011. Certains d'entre eux avaient désigné leur harceleur dans une lettre d'adieu et leurs familles ont eu à faire face, en plus d'avoir perdu un de leurs enfants, à des non-lieux, à l'impunité totale. Un élève sur dix est concerné par ce fléau qui fait des ravages sur les élèves et les familles et qui peut les pousser au suicide. 1 million d'élèves est concerné en France, sans compter ceux qui ne le disent pas. Un téléfilm Respire, inspiré de l'histoire vraie de Tessa, est sorti le 12 septembre avec un documentaire qui a suivi, bouleversant. On demeure stupéfait parfois d'apprendre ici ou là le suicide d'un ou d'une jeune qui révèle dans un courrier ou un texto avoir voulu mettre fin à ses jours. Quand j'avais 10 ans, j'étais en CM2. Il y avait là un camarade de classe, grande gigue, un peu béné, immature, gauche, et qui était la risée de tous les camarades, y compris moi. Pendant plusieurs jours, ce jeune était harcelé, et ses camarades y prenaient plaisir, et il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Un jour, je l'ai vu s'isoler et s'asseoir dans un coin de la cour de la récré, se mettre les mains au visage et pleurer. Je me suis dit, ce que tu fais là, tu es un gros dégueulasse, parce que tu fais comme les autres. Je suis allé le voir, je l'ai écouté, compris, et nous sommes devenus amis. Il m'arrive, quand je vais à Toulouse, de le revoir encore, Et cette amitié dure depuis 59 ans. J'ai oublié tous les autres camarades que je n'ai jamais revus depuis la primaire. On sait bien que des enfants sont facilement moqueurs envers d'autres enfants, les humiliant devant les autres. Tu es grosse, tu es moche, tu louches, tu as un gros bouton sur le nez, et puis c'est l'hilarité. Mais les blessures sont parfois si profondes et si durables que l'enfant peut tomber en dépression. Il se dit harcelé et il s'enferme sur lui-même, dans sa grotte, comme David. Il couvre l'amertume, voire la haine, la vengeance. Il peut avoir un décrochage scolaire, dépression, et parfois chez les ados, suicide. Le phénomène est aujourd'hui largement amplifié par les réseaux sociaux, les textos et les photos humiliantes qui circulent sur la toile. Le harcèlement semble monnaie courante dans notre société. Il fait partie de l'ambiance. Que ce soit dans les entreprises, les clubs de sport, dans le monde du cinéma, on se rappelle l'origine du mouvement MeToo. Dans les halls d'immeubles, pour une tenue vestimentaire, une orientation sexuelle, dans les transports, dans les cours d'école, on a beaucoup entendu parler à une époque de bizutage, dans l'entrée aux universités, avec des répercussions dramatiques, voire des suicides. C'est maintenant interdit, heureusement. Les jeunes s'émulent sur les réseaux sociaux à celui qui sera le plus fort pour détruire, démolir un de leurs camarades, avec une certaine perversion sadique que j'ai du mal à comprendre. On a une certaine jouissance à faire souffrir, à abaisser, à humilier, à faire craquer. Oh, c'est juste pour rigoler. Pour faire rire les copains, c'est pas si grave que ça. Même les parents pensent parfois que ce sont des jeux de gosses. Mais cela peut être criminel, comme pour Lucas, Lindsay, Marion, Nicolas et les autres. Le harcèlement n'existe pas que par les camarades et les réseaux sociaux. Il peut se passer au sein même des familles, malheureusement. Si les résultats scolaires attendus ne sont pas au rendez-vous, si les performances ne suivent pas, qu'elles soient scolaires, artistiques, sportives ou musicales, l'enfant peut être harcelé par ses parents. On le traite de fainéant, d'incapable, d'indiscipliné, de cancre, de ne pas travailler assez et surtout de passer son temps sur son téléphone. On le corrige, on le brime, on le prive. Ce que l'enfant ressent comme une injustice ou du mépris. Bien entendu, l'enfant doit être corrigé, repris. La Bible le dit. Mais il est question de manière et de faire. Si l'Épître aux Éphésiens dit « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur », l'Épître aux Colossiens précise « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » L'enfant éduqué doit être respecté dans son intégrité physique et morale. Ne pas l'humilier, ne pas le traiter pour moins que rien, ni le comparer à ses frères et sœurs ou ses camarades, et surtout ne pas oublier de le féliciter et de l'encourager quand il fait quelque chose de bien et même de le récompenser. Le harcèlement peut se passer au sein même du couple, le plus souvent du mari envers la femme, souvent traité comme une bonne, reléguée aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Cela se passe aussi malheureusement au sein des couples chrétiens. Et j'effleure aussi celui de l'inceste par un membre de la famille. Lundi dernier, un téléfilm est paru sur le sujet, « Les yeux grands fermés », avec Muriel Robin. Émouvant. Il peut se passer au sein de l'institution. On connaît tous celui des prêtres pédophiles, des ravages sur les enfants et l'image dégradée de la religion. Le harcèlement peut aussi venir au sein des écoles par les profs eux-mêmes. Humiliation devant les camarades, moquerie. Enfants relégués au fond de la classe et dont on ne s'occupe plus, désormais, une sorte de mise au placard. Je me rappelle lorsque j'étais en primaire, en Algérie, au cours élémentaire, avoir vu l'instituteur battre à coups de trique rageur un élève allongé au sol et se protégeant le visage. Ces images, encore présentes dans mon esprit, m'ont marqué. Je ne sais pas si le contexte de la guerre d'Algérie y était pour quelque chose, mais de fait, l'instituteur était français, l'élève un arabe. Toujours en primaire, mais en CM2, j'ai assisté à un spectacle humiliant et déplorable, dont je garde des images cruelles. Un élève a été mis au piqué par un prof dans la cour de récréation, avec un cahier souillé et raturé, épinglé au dos, à la vue de tous, et un bonnet d'âne sur la tête. À l'époque, cela se faisait encore, époque heureusement révolue. J'ai eu honte de ce que les instituteurs et les élèves étaient capables de faire. Personne ne se posait la question de savoir si cet enfant vivait des choses difficiles à la maison. Peut-être avait-il des parents en conflit ou en instance de divorce, alcoolique, au chômage. Peut-être était-il délaissé, terriblement seul ou à l'époque déjà harcelé. Peut-être à cause de cela faisait-il de mauvaises nuits, était-il fatigué. Il pouvait avoir de multiples raisons. Non, c'était un mauvais élève, point barre. Un fainéant, un point c'est tout. Et donc, en classe, on en rajoutait encore. Nous avons parmi nous plusieurs profs et profs des écoles ou de collèges et de lycées. Et je m'adresse aussi à eux ce matin. Je ne sais pas si vous êtes formés à cette problématique du harcèlement ou de la souffrance de l'enfant. Mais en tant que chrétien, soyons-y attentifs. Soyez surtout attentifs au décrochage scolaire, qui est symptomatique très souvent de cette souffrance. Un élève qui semble ne faire aucun effort, ne pas travailler, peut simplement ne pas pouvoir le faire chez lui sereinement. S'il y a de la violence intramuros, des cris, la télé qui marche à fond, une exiguïté des locaux, s'il n'a pas de chambre à lui-même, il peut être dans de très mauvaises conditions de travail. S'il est harcelé, comment peut-il se concentrer sur son travail? Avant de punir un élève, peut-être faut-il voir ce qu'il vit chez lui, s'enquérir de son vécu. Même un élève agressif, voire insolent, peut-être en grande souffrance. C'est sa manière de s'exprimer, de mettre des signaux d'alerte, un appel au secours. Alors, que faire? Que fait David dans le psaume? En premier lieu, il place sa confiance en Dieu. Il dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». Mettre sa confiance en Dieu, nous allons le voir, ça ne signifie pas que nous n'avons rien à faire, que nous n'avons pas à agir. Mais c'est d'abord là que ça commence. Précisément parce qu'il peut y avoir des situations où les décisions ne seront pas faciles à prendre. Vient ensuite une parole qui revient deux fois dans le psaume, « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Puis il dit, c'est grâce à Dieu que je loue sa parole. Il y a du réconfort à trouver dans la parole de Dieu. David affirme ses vérités sur Dieu. Tu comptes les pas de ma vie vagabonde. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Alors mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Au moment où il dit ça, les ennemis ne reculent pas du tout. C'est lui qui s'enfuit pour aller se réfugier dans une grotte. C'est une parole prononcée dans la foi. Il exprime sa confiance en un Dieu souverain et fidèle à ses promesses. Et finalement, il se réengage lui-même dans sa propre fidélité envers Dieu et exprime sa confiance dans le fait que sa prière sera exaucée. Ce qui est important pour David, ce n'est pas ce que les harceleurs disent. On peut imaginer les calomnies et les mensonges proférés à son sujet. Mais ce qui est important pour David, c'est ce que Dieu lui-même dit. En vérité, il exprime dans le psaume 6 et 7, « Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que des mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. » Il ne se laisse pas avoir. Ce n'est pas lui le problème. Lorsque nous sommes harcelés, nous pouvons penser que c'est nous le problème. Que quelque part, nous méritons ce qui nous arrive. Ce n'est évidemment jamais le cas. Alors, comme David, il est bon d'exprimer clairement ce qui est la vérité d'une situation et d'amener à la lumière ce qui est caché, de le verbaliser. Le mal que nos harceleurs commettent est à dénoncer. Il faut avoir ce cran de dire les choses, de ne pas croire ce qu'ils disent à notre sujet. Dieu parle de nous comme d'une créature merveilleuse. Cela signifie que pour le simple fait d'exister, nous sommes dignes. Et personne n'a le droit, que ce soit en parole ou en acte, de nous enlever cette dignité. Se rappeler aussi que Jésus aimait les enfants et que si quelqu'un scandalisait un de ses petits, il valait mieux qu'on lui mît une meule de moulin autour du cou et qu'on le jetât au fond de la mer. Alors je m'adresse ici aux jeunes aussi. Méfiez-vous de ce qui peut paraître un simple jeu sur les réseaux sociaux. Les moqueries, les intimidations, les brimades, les images et les photos transmises sans le consentement des personnes. Ne vous y associez pas, mais plutôt condamnez-les, comme le dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dénoncez ça avec la plus grande fermeté. Ne vous conformez pas à leurs auteurs. Informez les responsables d'établissement. Ne laissez pas passer ce genre de comportement. Le temps peut être compté pour celui ou celle qui est harcelé. Agir autrement serait d'une non-assistance à personne en péril. Il y a urgence. Et si vous-même vous êtes harcelé, parlez-en à vos parents, aux profs, aux éducateurs, à vos vrais amis. Faites le 119 ou le 38 ou le 30-18, pardon, ou le 30-20 qui sont plus spécifiques. Le 30-19 pour les femmes battues. Ce sont des numéros gratuits et anonymes et ils sont faits pour ça et vous trouverez de l'aide. Ne restez pas dans le mutisme, la honte, la peur. Ne vous laissez pas intimider. Les harceleurs sont des faibles et des pervers. Ils ne méritent pas que vous les laissiez faire en toute impunité. Vous êtes dignes de respect. Vos harceleurs doivent apprendre ce que sont le droit et la justice. Méfiez-vous aussi des photos que vous mettez sur les réseaux. Elles peuvent faire le tour de la toile et vous piéger. Et vous, parents, osez en parler à vos enfants. Peut-être sont-ils harcelés sans que vous le sachiez. Ce fléau doit être combattu par tous les moyens légaux. Quoi qu'il en soit, il y a pour tous une bonne nouvelle. En Christ, rien n'est inéluctable. David, par la confiance qu'il a mise en Dieu, a fini par trouver une porte de sortie à sa situation. Pour cela, il a mis des mots sur ses mots. Il n'a pas hésité à fuir lorsque c'était nécessaire. Saül aurait pu être délivré de son statut de persécuteur. La preuve, un autre Saül, ou Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens, harceleur, zélé contre les disciples de Jésus. Il deviendra pourtant par la suite l'apôtre Paul que l'on connaît. Mais contrairement à Paul, la repentance n'est pas le chemin que le roi Saül a pris. C'est néanmoins le chemin qu'il aurait pu prendre. Il aurait pu lui aussi mettre sa confiance en Dieu. David n'est plus là. Saül n'est plus là. Ils ne peuvent ni l'un ni l'autre réécrire l'histoire. Mais vous, vous êtes là. Bourreaux ou victimes, il est temps pour vous de retrouver le chemin de la vie. Pour terminer, je vais vous montrer une vidéo très émouvante d'un mauvais élève qui arrive toujours en retard en classe. C'est en langue étrangère, mais ça n'a pas d'importance. Les images parlent d'elles-mêmes. Il se fait réprimander par son instit à coups de règles dans la main. J'ai connu, moi, cette époque-là, où la punition se faisait à coups de règles sur les doigts rassemblés. Et on avait toujours tendance à retirer la main. Mais il fallait y passer. Cette pratique est heureusement interdite aujourd'hui. Il peut y avoir le son aussi.
Edhe mos e përsërit më, qetësi. Yeah.